Un disciple sur le chemin présente Le miroir de l'Uroboros, podcast ésotérique dédié à la spiritualité, à l'étude de l'occultisme et à la métaphysique théosophique. miroir.uroboros.net. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet que je voulais évoquer aujourd'hui est un sujet crucial en matière d'ésotérisme, de spiritualité, puisqu'il s'agit de la méditation. C'est un sujet ésotérique essentiel, extrêmement important en termes d'ésotérisme, en termes d'occultisme, en termes de développement personnel. La méditation, c'est quelque chose dont beaucoup de gens parlent. Chacun a sa manière de méditer, quelque part. Il existe une flopée de techniques diverses et variées, de manières de faire, de supports de méditation, de conseils. Bref, il est possible de méditer de mille et une façons, et c'est normal, parce que la méditation, c'est avant tout une démarche personnelle. Alors, cela dit, ce n'est pas parce que c'est une démarche personnelle et qui sera en fait, en concordance avec votre propre identité, que nécessairement, on devrait se taire. On devrait dire, ben voilà, la méditation, chacun fait comme il veut, et c'est très bien comme ça. Non, il est possible de donner des conseils, effectivement, pour la méditation. Alors, en guise d'introduction, il faut déterminer quand même ce que signifie méditer. Eh bien, la méditation, c'est une manière de regarder le monde, ou de regarder l'en soi, qui est différente de la manière dont on regarde habituellement. Quand je dis regarder, c'est aussi à la fois regarder avec les yeux, mais aussi regarder avec les autres sens, écouter, sentir, etc. La méditation est donc un état d'appréhension du monde, de conscience du monde, qui n'est pas la même chose que lorsqu'on est en état de veille, c'est-à-dire lorsqu'on est en activité au quotidien, qui n'est pas non plus la manière de regarder le monde quand on dort, donc l'état de sommeil. En fait, c'est un espèce d'état intermédiaire entre les deux, mais qui est hyperactif. On a tendance à considérer la méditation parfois comme s'il s'agissait de d'une espèce de relaxation, etc. C'est pas le cas. La méditation est justement une activité hyper concentrée. Un état de présence dans le monde. Un état où l'individu qui médite se pose pour observer le monde et être en harmonie avec lui. Comprendre cette idée d'état d'esprit différent de la méditation, c'est comprendre précisément que, quand on va méditer, on va changer de manière dans l'appréhension du monde. On va essayer de se positionner d'une autre façon que ce que, de manière automatique, notre corps et la vie nous proposent habituellement dans l'état d'activité ou dans l'état de veille du sommeil de la nuit. Alors, méditer, qu'est-ce qui se passe au début quand on commence la méditation? Eh bien, un débutant se dit « Tiens, je vais me mettre à méditer parce que j'ai envie de trouver mon être intérieur, j'ai envie de voir ce qui se passe quand je médite, j'ai envie d'aller sur d'autres sphères, sur d'autres plans, j'ai envie de rencontrer mon âme, enfin que sais-je encore. » Alors on a notre débutant, qui est plein de bonne volonté. Il ne sait pas trop comment faire, alors si jamais c'est encore un adolescent, il fait attention à ce qu'il n'y ait plus personne à la maison, il est peut-être tard le soir, ou peut-être très tôt le matin, ou un mercredi après-midi quand ses parents ne sont pas là, et puis il ferme les volets parce qu'il se dit que quand il sera dans l'obscurité, ce sera peut-être mieux, et puis alors notre ami décide de se mettre dans un état de méditation. Il se dit, je vais faire la position du lotus, je vais faire comme font les yogis, voilà. Et donc il s'assoit en tailleur par terre, il essaye de ramener ses jambes sur ses cuisses, Il se trouve que notre ami n'est guère, n'est guère souple. Et ça le fait souffrir hein, quand même. C'est pas très agréable tout ça. Aïe aïe aïe. Bon, finalement, il revoit sa copie. Il dit, bon, je vais juste me mettre en tailleur. On verra une autre fois pour la méditation en position du lotus. Et puis, il ferme les yeux. Et puis, il se dit, voilà, là, ça y est. Je mets mes mains sur mes genoux et c'est parti. Paume vers le haut, je me mets à méditer. Le silence se fait dans la maison ou dans l'appartement. Et ça y est, il est en méditation. Il rentre en méditation. Il se dit, ça y est, je médite. Je médite. J'ai les yeux fermés, je médite. Je suis en train de méditer. Je médite, je médite. Ah, une moto est passée dehors. Je médite. Oh, ce ronronnement, c'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est le frigo dans la cuisine qui est en train de dégivrer. Ok, je médite. Je médite. Je me demande si j'ai fermé la porte. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Et si mes parents rentrent? Qu'est-ce qu'ils vont penser en voyant comme je suis? Enfin bon. Je médite. Oh, j'ai mal aux fesses, j'aurais dû mettre un coussin. Ça fait mal aux fesses quand je m'assois comme ça. Je médite. Je suis en train de méditer. Bon, le calme intérieur. Je respire doucement. Oh, là, 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 là. Si seulement je pouvais. Oh, je crois que j'ai oublié de payer les impôts. C'est quoi la date limite déjà? Il faut que j'aille regarder sur Internet. Ouais, j'irai sur servicepublic.fr, je pourrais avoir les infos. Bon, allez, on se concentre un peu, je médite. Et notre ami, au bout de quelques minutes, dizaines de minutes, rouvre les yeux, un petit peu agacé, et se dit qu'eh ben, il a essayé de méditer, et que c'était pas évident, et qu'il ne s'est rien passé. Eh oui. Voilà ce qui se passe quand on médite au début. C'est l'horreur parce que notre mental, notre chair mentale, cet instrument qui est le nôtre, fait n'importe quoi. Il va dans tous les sens. Et c'est normal. C'est notre instrument, l'un des instruments les plus importants que nous avons. Il y a en fait d'autres instruments qu'on connaît très bien. On peut commencer par parler du corps physique, au sein duquel nous nous trouvons pour marcher, nous déplacer dans le monde, pour saisir des objets, pour entendre, pour parler, pour nous nourrir, pour boire, etc. Le corps éthérique, qui est un autre corps, cette fois-ci de sensations énergétiques, qui va nous permettre d'avoir des interactions avec des entités vivantes également. C'est le corps qui est utilisé dans le cadre du magnétisme, c'est le corps qui est utilisé pour, je dirais, stabiliser le corps physique, ça fera l'objet d'un autre podcast. Et puis aussi le corps astral dont j'ai déjà parlé, qui est le corps des émotions, et qui nous permet d'avoir des interactions avec le monde, mais sur un mode sensitif au sens des émotions en fait, donc le ressenti de l'autre, le ressenti d'une situation. Et d'exprimer aussi un rapport affectif au monde. Le dernier corps, donc le corps mental, est précisément cet instrument qui va nous permettre d'interagir avec le monde, cette fois-ci d'une manière analytique, en enregistrant des données grâce au corps physique et en les analysant au sein du corps mental. Ce corps mental étant en interaction avec le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, nous disent les théosophes et les occultistes, que le cerveau, ce n'est pas là où se situe l'analyse mentale, c'est une sorte, en quelque sorte, de poste de radio, ou de, moi je dirais même de modem, au sens informatique du terme, c'est-à-dire une espèce d'interface entre le corps mental et les stimuli physiques qui se trouvent, pas seulement d'ailleurs, également les stimuli astraux et éthériques qui se trouvent autour. Du coup, le cerveau est cette espèce de connexion entre le corps mental et précisément l'univers. C'est le point d'ancrage du corps mental, en quelque sorte, en termes de fonctionnement dans son interaction avec le corps. Alors, je dis cela, le corps mental, notre mental, va dans tous les sens quand on médite au début. C'est bien normal parce que cet instrument est sollicité au quotidien sur des actions et dans des situations très diverses. On apprend à exercer notre mental sur tout un ensemble de situations, de choses, on apprend à être en alerte. Et je dirais que c'est encore plus vrai dans nos sociétés contemporaines, au sein desquelles nous avons énormément de stimuli, de sollicitations de la part de l'univers. Je dirais dans les villes notamment. On apprend à avoir le téléphone, l'email, la foule, des panneaux publicitaires, de la musique, du son, des bruits, des échanges, des odeurs, des paroles, des relations avec autrui qui font que sans cesse nous sommes sollicités par notre environnement. Et sans qu'on s'en rende compte, le mental se concentre, analyse ces différentes données et les classe dans la mémoire, les classe dans l'enregistrement mémoriel, donc, et s'en sert également pour attirer l'attention sur, sur ce qui semble important. Exemple, le téléphone sonne, votre mental entend, enfin votre corps physique entend évidemment le téléphone qui sonne. Le cerveau analyse l'information et la transmet au corps mental qui va dire « Ah, il faut décrocher car cela signifie que quelqu'un est en train d'appeler et donc cela m'intéresse de savoir qui s'intéresse à moi. » Voilà, qui veut me joindre. Ce corps mental, c'est un élément qui va être crucial, essentiel au sein de la méditation. Car ce qui fait défaut aux débutants en méditation, c'est précisément la capacité à focaliser, d'autres diraient à concentrer, ce mental sur quelque chose de spécifique. Cela me fait penser à un ouvrage dont j'avais fait l'acquisition il y a quelques années, très très utile et à mon avis très intéressant pour qui débute en méditation. C'est un ouvrage qui est notamment conseillé par l'école Arcane, donc l'école fondée par Alice Bailey il y a un siècle maintenant, en apprentissage notamment de l'enseignement du tibétain. Ce livre s'appelle Concentration et méditation, en français donc. Il est écrit par quelqu'un qui s'appelle Christmas Humphreys. Alors Christmas, c'est en fait Christmas, hein, donc comme Christ avec M-A-S à la fin, comme Noël en anglais, donc. Ça, c'est son prénom. Et le nom de famille, c'est Humphreys, H-U-M-P-H-R-E-Y-S. Ce livre est intéressant parce que, en fait, c'est un bouddhiste ésotérique qui a écrit ce livre-là et qui nous explique que, fondamentalement, la méditation commence d'abord par l'apprentissage de la concentration, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte que le mental se trouve concentré sur un point spécifique. Quand je dis un point, d'ailleurs, c'est volontaire, c'est à la fois un point en termes d'image, c'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple, on va imaginer que dans le cadre d'une méditation, on va concentrer notre attention sur un point lumineux à 60 cm du corps au niveau du troisième œil, par exemple. C'est une idée comme ça. Mais quand je dis un point, c'est aussi se concentrer sur quelque chose. Et quelque chose a du sens au sens où, en fait, c'est donner une direction, un sens, comme la cible d'une flèche. Imaginez que le mental est justement la flèche que vous allez décocher, que votre attention, c'est votre tension que vous mettez dans l'arc, et que le point, le quelque chose sur lequel se concentrer, c'est justement la cible. Eh bien, Christmas Humphreys nous dit que, avant de méditer, il faut apprendre à se concentrer. C'est la base même du fameux Raja Yoga. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Alors, se concentrer, en revanche, n'est pas méditer. Il faut comprendre que quand je dis qu'il faut que le mental puisse se focaliser, c'est que c'est apprendre à le dompter dans un premier temps, comme un cheval fougueux. Fougueux qu'il est parce que associé à kama, le désir. C'est pour ça que les théosophes des premiers temps parlaient d'un corps appelé kama manas, c'est-à-dire manas, le mental, qui est matiné du désir, kama, donc qui fait une espèce de mélange en gros astral mental, hein, corps astral, corps mental, et qui se trouve être rabaissé. Quand je dis rabaissé, ce n'est pas dans un sens péjoratif, c'est plutôt dans un sens de tourner vers la terre, en quelque sorte, plutôt que de se tourner vers l'en-soi ou vers Dieu ou vers l'univers. Du coup, le fait que le mental ne soit pas focalisé dans une direction, enfin sur un point, vers une direction, eh bien, cela a comme conséquence justement cette espèce d'égarement. Le fait que, eh bien, le disciple se pose, essaie de méditer et se rend compte qu'il est confronté au problème suivant. Le mental cherche absolument, parce qu'il est habitué ainsi, et cette notion d'habitude a beaucoup d'importance. Il est habitué ainsi à batifoler et à se concentrer sur n'importe quel stimuli. Du coup, quand on commence à méditer, on se met dans une position de réception, dans une position d'antenne radio, en quelque sorte, où tous les stimuli extérieurs, physiques, c'est-à-dire tous les stimuli du corps, par exemple la petite douleur aux fesses parce que vous êtes mal assis, la petite courbature au niveau de l'épaule, les fameuses fourmis que vous sentez dans le pied parce que vous avez une position assise qui ne bouge pas, la petite difficulté à respirer, la petite toux qui peut vous prendre au niveau des poumons. Le petit son qui va commencer à vous agacer au niveau de l'oreille, le son extérieur, l'oiseau qui piaille, le frigo qui fait du bruit, mais également, pourquoi pas, on peut imaginer une odeur particulière, une odeur qui d'un seul coup vous prend, une odeur de gâteau, parce que votre voisine est en train de faire un gâteau pour ses enfants. Ou bien, pourquoi pas, imaginons tout autre chose, un goût dans la bouche. Qui pourrait vous être désagréable. Ou bien encore une fois, effectivement, la lumière, et donc vous cherchez à l'écarter parce qu'elle vous trouble. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai ici énoncé les cinq sens. Ces cinq sens, ce sont les cinq manières qui sont offertes à l'homme pour, au travers du corps physique, interagir avec l'univers, le monde qui l'entoure. Et notre mental est connecté à ces cinq sens. C'est ça, on va dire que les cinq sens représentent la source de données pour notre cher mental qui analyse. Et ce faisant, nous, ce qu'on veut dans la méditation, c'est développer un sixième sens, un autre sens que les cinq sens énoncés. C'est la raison pour laquelle il va falloir s'occuper de ces cinq sens qui nous embêtent. Et pour s'occuper de ces cinq sens, eh bien, il y a deux possibilités. La première possibilité consiste à les couper, c'est-à-dire à lutter contre eux. C'est une solution possible, mais qui n'est pas forcément suffisante. Ni suffisante, ni même satisfaisante d'ailleurs. Imaginons donc que vous souhaitiez couper ces sens pour pouvoir vous concentrer sur le sixième. Alors on va dire que, eh bien, je ne sais pas, dans l'absolu, vous allez bien fermer les yeux pour ne pas être gêné par la lumière, mettre des boules quies pour ne pas être gêné par les sons extérieurs, mettre un petit coussin sous vos fesses pour éviter d'être embêté, etc., etc. En réalité, ça n'est pas une solution parce que, et c'est pourquoi ça n'est pas satisfaisant, vous verrez que vous ne pouvez pas totalement couper vos sens de manière extérieure. À partir du moment où vous mettez des boules quies dans les oreilles, vous verrez notamment que vous entendrez beaucoup votre propre souffle, votre propre respiration. Ce n'est pas forcément la meilleure chose qui soit dans le cas d'une méditation. Par ailleurs, vous pourrez aussi vous sentir à un moment donné une espèce de bourdonnement ou une gêne au niveau des oreilles, donc par conséquent, vous allez aiguiser votre sens du toucher. Et puis, ce n'est pas forcément se rendre service parce que ça voudra dire que vous ne serez en mesure de méditer que dans des conditions d'extrême coupure du monde. Et j'ai envie de dire que quelque part, non seulement c'est un problème, c'est-à-dire que si vous voulez méditer dans un autre cadre que ce cadre extrêmement encadré, bah, ce sera difficile, mais aussi c'est un problème philosophique et moral, c'est-à-dire que en se préparant ainsi à la méditation qui est un acte d'union, la méditation, c'est avant tout l'acte d'union, soit au sens interne, soit enfin au sens propre au soi à l'en-soi, soit ou bien à l'univers, mais c'est une union. Et par conséquent, le fait de se couper comme ça du monde, il y a une espèce de contradiction assez violente qui, quelque part, nous permettrait pas d'entrer, j'ai envie de dire, ne serait-ce que mentalement en méditation. Une espèce de une contradiction à la pratique. C'est comme si on avait quelqu'un qui disait je prône l'amour de tous, mais je ne supporte pas croiser les gens dans le métro parce que ça m'agace prodigieusement. Ben, cette espèce d'agacement, cette irritation ne fait pas bon ménage avec l'idée de fraternité, par exemple. D'ailleurs, la raison pour laquelle, dans l'Agni Yoga, notamment, le maître Maurya nous met en garde contre toute forme d'irritation, qui, pour le disciple, est un vrai péché, vous m'excuserez le terme chrétien. Et en l'occurrence, la méditation, donc, pour y revenir, consiste effectivement à s'unir au monde. Simplement de ne pas le faire par les cinq sens, mais par un autre sens. Donc, il faut fonctionner d'une autre manière. Alors, il est certain que il faut s'aider, en fait, pour accompagner ces cinq sens, à accompagner la méditation. Mais il ne s'agit pas d'une logique de coupure, de conflit, d'entrer en conflit avec ces cinq sens, mais plutôt d'apprendre à les écarter mentalement en les harmonisant à la posture. Le mental va se focaliser dans une direction. Ça, on y reviendra plus tard. C'est la notion justement de, eh bien, de concentration, d'apprendre d'abord à se concentrer pour donner une direction au mental. Ça sera à la fois une concentration visuelle, par exemple se concentrer sur un point, ou bien se concentrer sur une idée, sur un concept, sur une pensée, sur un rite, quand on fait une méditation très spécifique avec des étapes. Mais c'est aussi le fait d'harmoniser, d'entrer en alignement des corps les uns avec les autres. Cette notion d'alignement est absolument essentielle en méditation. Alice Bellé en parle longuement, enfin le Tibétain en parle longuement. C'est la nécessité, en quelque sorte, de faire que les différentes parties du corps, pardon, de la personne humaine, de la personnalité, se retrouvent à entrer en concordance, en harmonie les uns avec les autres. C'est une harmonisation. Moi, j'avais tendance à visualiser ça comme si les corps, le corps physique, éthérique, astral et mental, étaient comme des espèces de, je ne sais pas, des plateaux, hein, des espèces de plateaux circulaires qui seraient empilés les uns sur les autres, mais pas totalement emboîtés les uns par rapport aux autres. On pourrait imaginer aussi, pourquoi pas, une pile d'assiettes. Vous prenez quatre assiettes qui sont les unes sur les autres, mais qui ne sont pas totalement bien imbriquées les unes dans les autres, bien placées au centre les unes des autres. Résultat des courses, si vous faites une pile avec toutes ces assiettes empilées les unes sur les autres de manière non alignée, eh bien, rapidement, les assiettes vont s'effondrer et se casser les unes les autres dans un fracas tonitruant. Eh bien, l'idée, c'est un peu la même au niveau de la méditation, c'est d'arriver, avant de pouvoir méditer, d'aligner ces différents corps les uns avec les autres. Et pour ce faire, on va utiliser des supports. Des supports, c'est à commencer par le corps physique, c'est aider le corps physique à entrer en méditation, à entrer dans un état de méditation, ou avant même ça, à entrer dans un état d'alignement qui va nous permettre, grâce à la concentration, d'arriver ultérieurement à un état de méditation. Ces supports, commençons par notre corps physique, revenons à nos fameux sens, eh bien, on va essayer d'aligner les sens dans le sens justement de la méditation et de l'exercice du mental tourné vers, donc dirigé vers la concentration d'un point. Et quelque part, ce que l'on souhaite, c'est amener les sens à accompagner la focalisation du mental. Alors pour le côté physique, le toucher notamment, la sensation de toucher, eh bien, on va essayer de se mettre dans une position spécifique qui va nous permettre, je dirais, d'accompagner au mieux justement cet alignement. Alors, ça peut être allongé. Je sais que on préfère souvent la position assise, même si certains arrivent à méditer allongé. L'intérêt de la position assise est qu'elle donne une certaine verticalité tout en étant confortable. Le fait de s'asseoir et d'avoir la tête haute par rapport au torse permet de dresser une espèce de verticalité, et cette verticalité, cette élévation, va nous permettre symboliquement de représenter le fait de s'élever vers le ciel, qui est une image excessivement rebattue hein, dans le cadre de la méditation et dans le cadre de l'élévation de soi. Et quelque part, le fait d'être non pas debout, parce que debout serait trop complexe, trop fatigant, mais le fait d'être assis, mais en même temps droit, permet au corps physique de se positionner, et notamment donc au toucher, de se positionner dans une direction vers le haut. Et donc de symboliser la montée énergétique des énergies du bas vers le haut. C'est aussi le fait d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Ça, c'est pour une autre raison que je vais évoquer juste après. Le fait ensuite, pourquoi pas, de trouver un endroit un minimum confortable quand même pour vos fesses. On peut méditer, bien sûr, sur du bois, sur n'importe quoi, mais peut-être que, pourquoi pas, prendre un petit tapis, un petit coussin, quelque chose qui va vous permettre d'être confortable. Ça permettra du coup de ne pas être gêné par le corps physique, tout en quelque part le mettant dans une situation de repos, en indiquant quelque part au corps physique et au sens du toucher que lorsqu'on va entrer en méditation, eh bien, on va lui indiquer qu'il va changer de mode de fonctionnement par rapport au mode de l'activité. C'est comme si on disait au corps, mon ami, en te positionnant maintenant ainsi, je te rappelle que nous allons méditer. Je te l'indique. Tu le sais parce que tu es dans un état de confort, tout en étant dans cette verticalité symbolique. Nous avons également le sens du goût. Alors, concernant le goût, évidemment, il s'agit d'éviter, par exemple, de méditer juste après manger, sans s'être lavé les dents. Je rappelle que c'est quand même indispensable en termes d'hygiène. C'est, par exemple, pourquoi pas, le fait de dire au corps qu'il va être maintenant dans un état qui est différent de d'habitude au niveau de la nourriture, donc qui rappelle le sens du goût. Comment faire? Eh bien, ce qui peut être très positif, c'est par exemple de prendre un grand verre d'eau. L'idée est la suivante, vous remplissez un verre d'eau, je dirais, robinet ou en eau minérale, peu importe, et puis vous le prenez dans le verre, vous vous concentrez sur l'eau de ce verre, en vous disant que, en buvant cette eau, vous entrez dans un autre mode de fonctionnement, qui va être celui de la méditation, et en buvant doucement cette eau qui va rentrer dans votre corps, s'écouler le long de votre œsophage et rentrer dans vos organes, vous indiquez, à la fois physiquement, par la sensation de l'eau, mais aussi par cette nourriture de base, qui est la nourriture la plus importante du corps, c'est l'eau, eh bien vous lui indiquez cette entrée en résonance qui va être celui de l'entrée dans la méditation. Ensuite, parlons, pourquoi pas, du sens de l'écoute, de l'oreille, de l'ouïe. Là, c'est la même chose. L'idée, certes, il est possible de méditer dans tout lieu, normalement, lorsqu'on on a trouvé la clé. Mais en attendant, pour commencer, il peut être important de se mettre, par exemple, dans un état de méditation, dans un relatif silence. L'idée est d'essayer d'obtenir d'être dans un lieu où il y a peu d'activité, dans un lieu un peu à l'écart. Le silence absolu n'existe pas, ce n'est pas grave. On verra qu'il est possible de faire abstraction des bruits qui peuvent nous embêter ultérieurement, mais l'idée est d'arriver quand même à une certaine forme de silence. Mais il est aussi possible d'accompagner l'ouïe par de la musique. Je sais que certains aiment bien méditer en utilisant des musiques un peu inspirantes, avec des bruits cristallins ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible aussi. Pour ma part, je ne le fais pas. D'aucuns énoncent l'idée que, je ne sais pas si c'est vrai, que ces musiques peuvent du coup trop emporter l'esprit sur des sphères qui ne sont pas celles qui est la racine de la méditation à la base, et donc par conséquent écarte, enfin change la teneur de la méditation. Bon, je ne sais pas si, je pense que ça peut être le cas, mais je n'ai aucune certitude. Je sais que pour ma part, je médite plutôt dans le silence. Cela dit, j'apprends, j'explique, j'indique au sens de Louis que je vais rentrer en méditation. Et une bonne manière de le faire est par l'intermédiaire d'un tintement. Un tintement, par exemple, un tintement cristallin, qui va nous permettre d'évoquer une note de musique spécifique, qui va expliquer au corps physique, en tout cas à son sens de l'ouïe, que nous allons entrer dans un autre mode de fonctionnement et de réception et d'écoute, qui est celui de la méditation. C'est la raison pour laquelle on peut utiliser, par exemple, pourquoi pas, un bol tibétain, une cloche, ou un certain nombre de choses comme ça qui vont nous permettre, un bruit cristallin quelconque, qui va nous permettre d'indiquer que, par cette résonance, on entre dans un mode de méditation. C'est la même chose au niveau, au niveau de l'odeur. L'odorat, ce quatrième sens, est aussi, peut être sollicité dans le cadre d'une méditation. C'est l'un des intérêts notamment de l'encens. L'encens qu'on va allumer au moment d'une méditation va permettre d'indiquer au corps, au niveau de son odorat précisément, que nous allons entrer dans un mode de fonctionnement spécifique, qui est celui, de la méditation. Et donc, le fait d'allumer un encens va nous permettre, en plus l'encens est très intéressant en termes de symbole, parce qu'il y a un côté magique et il y a un côté sacré dans l'encens, hein, qu'on utilise dans les églises, dans les temples, et dans le fait également visuel d'une source lumineuse, la braise, qui, grâce d'abord à une flamme, donc s'éveille, et cette braise va emporter des volutes de fumée, donc de matière, vers le haut, par l'intermédiaire donc de la chaleur. Donc il y a une espèce comme ça d'élévation des volutes de fumée qui symbolise l'envolée de l'esprit vers des sphères spirituelles, vers un en soi profond, divin, etc. Et puis, dernier sens que nous pouvons solliciter de cette manière-là, c'est bien sûr le sens de la vue. Il peut être opportun, par exemple, de se mettre dans une obscurité ou une semi-obscurité. Par exemple, pourquoi pas, en allumant une bougie. Une bougie qui, par l'allumage de la flamme, symboliserait le fait d'éveiller, le fait d'allumer un feu intérieur pour toucher quelque chose qui ressemble au divin. Je n'ai pas parlé du corps éthérique, mais nous pourrions évoquer le fait que, dans le cadre d'une méditation, il faut savoir que nous avons un feu intérieur, qui est appelé parfois la Kundalini, le feu serpent, qui dort dans un chakra à la racine de la colonne vertébrale, qui, dans le cadre de la méditation, s'éveille et remonte le long de la colonne, en fonction de trois grands canaux appelés Ida, Pingala et Sushumna. Ce feu serpent qui s'élève dans le cadre de la méditation s'élève mieux, nous disent les yogis, je n'ai pas regardé pour vérifier, si nous sommes dans une posture haute et dans une posture droite. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est bien de se positionner de manière bien droite quand on médite, sans raideur, mais en ayant la tête droite par rapport à la colonne vertébrale, afin de permettre au feu serpent de s'élever de la meilleure manière qui soit. Tout cela, ce sont des supports, c'est-à-dire que ce n'est pas cela qui va vous faire méditer. Par contre, et il ne faut absolument pas les négliger à mon avis, même s'ils sont loin d'être indispensables, ils ne sont absolument pas indispensables, ils permettent de s'indiquer à soi-même et d'indiquer à notre corps, à notre instrument physique qui est le corps physique, que nous allons entrer dans une méditation, que nous allons être dans un autre mode d'attention au monde. Et le caractère en plus répété de ces supports, c'est-à-dire utiliser toujours le même support ou la même manière de faire lorsque vous ferez votre méditation quotidienne, eh bien, c'est une manière d'entrer dans une espèce de rite, de rituel personnel, qui va aider justement à cette préparation du corps et de l'esprit pour cette focalisation dans la méditation. Ça n'est pas suffisant, bien sûr, mais ce sont des supports qui peuvent avoir leur intérêt. Pour ma part, j'utilise effectivement ces supports-là lorsque j'entre en méditation. Au-delà du corps physique, c'est aussi indiqué au mental et au corps des émotions que l'on va entrer dans un autre mode de fonctionnement. Le symbole, le rite, a aussi cet intérêt-là, c'est-à-dire de s'adresser au mental qui, par l'exercice des différents supports, apprend que l'attention va être différente. Même chose pour le corps astral. Le fait de mettre en place cet aspect sacré, le fait de sacraliser l'instant de la méditation, c'est s'abstraire de la vie quotidienne pendant un instant par les actes symboliques de l'encens, de la flamme, de la musique, du silence, etc., tout en faisant en sorte d'indiquer au corps des émotions, au corps émotionnel, au corps astral, qu'il est temps qu'il se calme, qu'il se pose, qu'il n'a pas à s'intéresser à des choses de l'extérieur, de la vie quotidienne. Entrer en méditation par ces supports symboliques, c'est important parce que c'est aussi indiqué à la fois à soi, c'est vrai, que l'on entre en méditation, mais aussi à la hiérarchie, au maître. Quelque part, c'est un office, au sens religieux du terme, que l'on commence. On entre dans un moment de méditation, on crée un rituel personnel qui est un rituel magique, qui va mobiliser des énergies autour de soi, des entités qu'on ne connaît pas. Par exemple, pourquoi pas, quand on va effectivement solliciter un verre d'eau que l'on va magnétiser de ses mains dans le verre avant de le boire, eh bien, on va attirer l'attention peut-être de ce qu'on appelle les ondines, les petits élémentaux liés à l'eau. Peut-être que lorsqu'on va allumer une flamme au niveau d'une bougie, eh bien, on va dire bonjour à une salamandre qui viendra veiller sur votre état méditatif. Peut-être que lorsqu'on allume l'encens, eh bien, s'envole au travers des cendres et de la fumée, eh bien, précisément les sylphes qui viennent là accompagner les volutes de l'air qui se trouvent tout autour de nous. Et puis, quand on va se positionner assis, quand on va faire résonner une musique, peut-être que c'est une résonance de la matière que nos amis les gnomes, les élémentaux de la Terre, viendront regarder avec intérêt et attention. Bref, ça, ce sont pour les élémentaux les plus basiques, mais petit à petit, des entités bénéfiques se penchent sur le méditant, l'accompagnent, parce que lorsque un rituel comme ça est construit, eh bien, des entités sur différents plans s'intéressent à la personne qui médite, l'entourent. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le monde des devas. Les devas sont ces fameuses entités, j'aurai l'occasion d'y revenir dans le cadre d'un autre podcast sans doute, mais qui sont intéressés justement par nos changements émotionnels et qui sont notamment intéressés par ces états méditatifs. Le fait de se positionner dans cette ambiance va permettre de créer un décor en quelque sorte qui va accueillir l'état de méditation. Commence alors la fameuse concentration, quand on va se positionner, par exemple assis, concentration sur un point spécifique, par exemple en termes de visualisation, on peut imaginer ça. Ensuite, de sentir les énergies monter dans le corps en focalisant l'attention par l'intermédiaire du mental au niveau, pourquoi pas, de l'ajna, en visualisant ce point de lumière à 60 cm, au niveau un peu plus bas que le front, hein, au niveau de la racine du nez. Le mental vise une cible et par l'intermédiaire de la montée des énergies au sein du corps, donc de la base jusque finalement au troisième œil, qui est là où vise le mental, à 60 cm, un point à 60 cm du corps physique, eh bien le feu serpent va s'élever et petit à petit trouver son chemin jusqu'à ce chakra. J'insiste sur le fait, en revanche, extrêmement important, de ne jamais méditer sur un point du corps. C'est extrêmement important parce que vous pouvez vous faire du mal. Les méditations se font sur des points à distance du corps, toujours. Si vous devez vous concentrer sur un point, ce sera toujours à distance du corps et jamais sur le corps lui-même. Et puis, ensuite, précisément, de focaliser le mental par l'intermédiaire d'un rite donc c'est-à-dire d'une méditation spécifique qui va nous aider à méditer sur quelque chose. Il en existe des très connues, l'une d'elles est magnifique et est utilisée au début justement par l'école Arcane qui repose sur l'enseignement du tibétain pour notamment, entre autres, un entraînement à la méditation. Et j'aurai l'occasion d'y revenir dans un podcast suivant, toujours sur cette question de la méditation, où on va vraiment parler, cette fois-ci de manière réelle, quel rite on peut faire justement pour apprendre à méditer.